Y a-t-il des limites
Stop.
à la liberté d'expression?
Point d'interrogation.
Avant, c'était une mercerie. Là. C'était bien parce qu'on trouvait de tout. Mais ils abîment tout, ils crassent tout, ils changent tout. On sait plus où c'est qu'on en est, quoi. Dès que c'est transformé, on oublie ce qu'était avant.
Oui, c'est vrai, ça.
C'est ça. Enfin, moi, ça me fait ça. Voilà.
Pulsar.
Pulsar.
Vous êtes sur l'émission Fracture. Le pilote de cette nouvelle émission d'actualité politique et sociale et historique sur Pulsar, et nous sommes en présence de Katrina et Xintia qui vont donc continuer sur la thématique des colonies pénitentiaires et l'enfermement des mineurs au cours des 19e et 20e siècles.
Là, on vient d'écouter une chanson. Je reviens un peu sur Jean Genet, puisque il est assez intéressant en fait. C'est un des rares témoignages qu'on a vraiment de quelqu'un qui a participé à ce... qui a fait partie de ce type d'établissement. Après, lui, il vient un peu plus tard, il vient dans les années 30, du coup, certaines conditions se sont quand même considérablement adoucies. Et ce qui peut être amusant, du coup, il a écrit un livre qui s'appelle L'enfant criminel, et dedans, on peut retrouver, pour ceux que ça intéresse, il y a cette idée qui est assez intéressante, où, en fait, il demande, lui, il a l'image fantasmée, en fait, de ces colonies très dures et des bagnes très dures, en fait, parce que eux étaient contre cette société-là, et du coup, quelque part, lui, il demande en fait d'être maltraité et de pas avoir un truc qui s'adoucit. Voilà. Ça peut être assez intéressant parce qu'on a assez peu de témoignages de comment penser ces jeunes, et pour mettre dans le contexte de ces petits délinquants, de quel comportement ils peuvent avoir par rapport à ça. Vas-y, Katrina.
Alors oui, moi je vais vous parler donc de la colonie de la Couronne. Hein. La Couronne, c'est une commune près d'Angoulême. Alors en 1897, il y a Léopold Bellefaille, donc un propriétaire terrien, qui sollicite la création d'une colonie sur son terrain. Alors à l'époque, il y avait deux types de colonies. Il y avait les colonies publiques et les colonies privées. Alors la plupart étaient privées, et à ce moment-là, c'était le propriétaire des terres, donc que ce soit un particulier ou une congrégation religieuse, qui devenait du coup le directeur de la colonie. Donc là, donc Léopold Bellefaille, l'État accepte sa demande de colonie, donc il va faire construire un dortoir, une cantine, tout ça sur sa propriété, et il va commencer à accueillir des enfants, des pupilles, comme on les appelle à l'époque. Donc il va en accueillir entre 20 et 60 selon les années. Alors à ce moment-là, comment ça se passe? Les propriétaires, les directeurs vont recevoir de la part de l'État des allocations. Donc une allocation par enfant. Cette allocation, elle est censée être utilisée pour pourvoir aux besoins des enfants, donc les nourrir, les vêtir et les instruire. On verra un peu plus tard que clairement, cette allocation, elle finit surtout dans la poche du directeur. En fait, les directeurs vont gratter un maximum de sous là-dessus pour s'en servir comme un salaire. Hein. Ils vont pas tellement l'utiliser pour les enfants. Et surtout, ces directeurs, donc là on est dans des colonies agricoles, hein, ces directeurs, ils vont surtout envoyer les enfants dans les champs, sur le domaine, bah, pour y travailler. Hein. C'est complètement l'objectif de ces colonies. Bon, pareil, on va voir un peu après ce qu'il en est réellement. Donc ces enfants, au-delà du travail, ils sont censés recevoir une certaine forme d'instruction. À la Couronne, c'est au début, ça va être la femme du directeur, hein, qui va s'occuper de l'école. Donc c'est environ une heure le matin, entre 5 et 6 heures, avant d'aller travailler. C'est clairement, elle n'est pas institutrice, hein, elle le fait parce que bon, comme ça, c'est on n'a pas besoin de payer quelqu'un en plus. Lorsqu'elle décède, je crois qu'ils font venir un instituteur, mais ça dure pas très longtemps, donc il y a toute une période où il y a plus du tout d'instruction qui se fait, il y a plus d'école. Et après, on confie la tâche à un garde, qui sont souvent d'anciens militaires, ivrognes la plupart du temps. On imagine la qualité de l'instruction à ce moment-là, quoi. Les colonies, c'est des lieux insalubres. Les enfants, ils sont entassés dans des toutes petites cellules. Ils ont pas de drap sur leur lit, c'est déjà pas mal s'ils ont un matelas. Ils ont très très peu de nourriture. Hein. Là, la Couronne, c'est une soupe avec un peu d'haricots le matin et une soupe avec des lentilles le soir. Quasiment jamais de viande. pour l'anecdote, il y a une autre colonie à un moment donné qui se fait un peu taper sur les doigts là-dessus. On fait savoir au directeur que ce serait pas mal quand même de temps en temps de mettre un peu de viande. Bon, ok, ça marche. Du coup, on rajoute une poule le dimanche pour 200 détenus. Voilà,
c'est toujours cette ration.
C'est ça. Donc voilà, on est sur des conditions très austères, avec beaucoup de mauvais traitements. Hein. Il y a beaucoup de coups, de sévices sexuels.
Oui, juste pour la nourriture, je rajoute que de nombreux observateurs relèvent le fait que le pain, par exemple, est cuisiné frais souvent sur le lieu des colonies, mais pour punir les enfants un petit peu plus, et ben on leur donne systématiquement le pain de la veille ou de la surveille, histoire qu'ils aient du pain dur, quoi.
C'est ça. Et puis d'ailleurs, c'est une des punitions qu'on affectionne particulièrement, c'est quelques jours au pain sec et à l'eau. En plus, c'est pas mal parce que ça permet de faire des économies, ça coûte moins cher, donc c'est toujours ça de prix, quoi. Donc voilà, aussi beaucoup de punitions pour tout et pour rien, hein, c'est... Dès que l'enfant fait un pas de travers, il y a une répression systématique. Alors il y a le fameux cachot, hein, évidemment, qui est surutilisé. Donc les enfants peuvent y rester même plusieurs semaines d'affilée. Hein. Après les punitions varient. C'est un peu à la discrétion du directeur. Il y a le piqué, il y a le martinet, il y a le fouet.
Il y a aussi des formes d'humiliation un peu plus, un peu moins peut-être sévère physiquement, mais qui est souvent relevé, en fait, de leur donner un costume ridicule, genre de découdre des manches de différents costumes pour, en fait, ils sont habillés d'un espèce de costume d'arlequin en permanence, en guise de punition. On peut aussi noter les coupes de cheveux, en fait, ou rasées, ou mi-rasées,
ou moitié rasées. Ce qui est assez pratique en cas d'évasion, c'est-à-dire que si le gamin n'a pas le temps de se raser l'autre partie de la tête, on les repère plus facilement, quoi.
Voilà. Et puis pour les punitions aussi, il faut relever le fait que, alors en particulier pour la couronne, mais assez souvent en fait, les colonies privées, en fait, quand ils n'arrivent pas à gérer leurs détenus, ils les envoient dans les colonies publiques qui sont moins nombreuses mais qui sont plus dures, souvent situées dans des lieux difficiles pour les évasions, comme à Belle-Île dont on va reparler, qui est dans le Morbihan, et en Corse aussi.
Donc là, on parlait, ces enfants, ils sont envoyés... alors, il y a aussi des colonies industrielles, on va moins en parler, hein. Donc c'est des colonies où plus souvent en ville, où les enfants vont être dans un peu comme à la petite roquette, hein, vont se retrouver en cellule pour y travailler sur des métiers à tisser, sur des choses.
Elles ont moins eu la cote aussi, en fait. Ouais. Assez vite, ça a basculé sur les colonies agricoles où il y avait une idée de retour à la nature et tout, qu'elle allait rééduquer ses enfants.
Et avec l'idée aussi qu'ils y apprennent un métier. Alors clairement, là, on va voir que c'est pas le cas, en fait.
Oui, non, assez vite, c'est... Enfin, par exemple, pour la colonie de la Couronne, on va avoir le fait que les observateurs relèvent qu'en fait, ils se demandent si les enfants ne sont pas juste employés à brasser des cailloux, en fait, ils ne savent... Enfin, on est plutôt sur ce genre de tâches, en fait, de bêcher les champs à la main, et puis on parle de colonies de plusieurs hectares, hein, de bêcher les champs à la main, de faire tout le gros œuf qu'il peut y avoir dans l'agricole, qui est aujourd'hui, bien sûr, effectué par les machines, mais... Mais voilà, à la colonie de la Couronne, par exemple, c'est eux qui ont creusé les canalisations qui seraient encore utilisées aujourd'hui.
Ouais. Pour avoir une idée de la rentabilité de ces colonies, c'est noté à des moments, on retrouve dans les archives, qu'en fait, le fait qu'il y ait cette possibilité de colonie pénitentiaire sur une terre, en fait, ça devient une plus-value lors d'une vente. Hein. C'est une valeur ajoutée, quoi. Donc c'est vraiment hyper rentable. Et pour donner un autre, je voulais évoquer en Corse, il y a une colonie. Et un jour, il y a une grand-mère qui écrit un courrier au directeur de la colonie et qui lui demande, voilà, moi j'ai mon petit-fils qui est dans votre colonie depuis plusieurs années, j'aimerais bien le récupérer, voilà, comment ça se passe, quoi. Alors là, le directeur lui répond, votre petit-fils est en excellente santé, c'est un très bon élément, il travaille bien, il est discipliné tout comme il faut. On s'imagine que peut-être à ce moment-là, elle va pouvoir récupérer son petit-fils. Mais en fait, on finit par lui répondre que elle a déjà quatre petits-enfants à charge et que bon, on va pas lui en rajouter un. Donc finalement, on va le garder. Hein, donc on va le garder jusqu'à sa majorité. Donc voilà, c'est vraiment cette idée que ces enfants, c'est de la main-d'œuvre, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Ils sont là pour ça, quoi. Donc si on peut les garder, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on les garde aussi longtemps, hein, ces enfants. On a eu tout à l'heure qu'ils prenaient ça revenait à des peines complètement absurdes d'enfermement, mais en fait on les garde aussi longtemps parce que toujours dans un souci de rentabilité. Si un enfant il arrive et qu'il reste même pas un an sur la colonie, bah voilà, on a à peine le temps de lui expliquer ce qu'il doit faire, qu'il se casse déjà. Bon, c'est pas hyper intéressant. Donc, si on peut les garder jusqu'au bout, c'est quand même pas mal, quoi.
Il me semble que les peines les plus courtes, les moins de 6 mois, sont effectuées assez souvent dans les prisons départementales avec les adultes.
Oui,
parce que de toute façon, ça sert à rien de les former pour aussi peu. Donc,
c'est ça.
On peut, on parlait de cet exemple avec la grand-mère, on peut parler aussi du rôle des parents. C'est que comme ces enfants viennent de milieux pauvres, et avec souvent les parents qui sont... ça apparaît pendant les jugements, mais en fait, les parents... comme il y a le système de placement, en fait, qui fait qu'ils sont jugés responsables ou non, ou dans ce cas-là, ils sont censés pouvoir retourner dans leur famille la plupart du temps, parce que c'est la famille qui a l'autorité. En fait, on ne va pas accorder à ces familles l'autorité parce que où il y a eu déjà des jugements de vol, de vagabondage, de prostitution dans la famille, et les parents ne sont pas jugés responsables, en fait, pour leurs enfants, ce qui fait que la colonie devient une sorte de placement. Voilà. Du coup, à propos des parents, on peut noter que le droit de visite est possible, mais quasiment inexistant. De la même manière, en fait, souvent on juge pas bon de les tenir au courant quand il y a des décès. Enfin, que ce soit les enfants ou les parents, en fait, les lettres sont pas forcément transmises. Et puis là, il y a de nombreux exemples de parents, en fait, qui sont bon. Il n'y a pas de jugement de valeur, mais en fait, qui sont déjà très très pauvres, qui se saignent en plus pour donner des timbres, essayer d'envoyer de la nourriture. Alors, ou c'est pas donné, ou c'est complètement bidon. Voilà. Du coup, c'est pour dire la haute estime que la justice donne de ces personnes. Et par là, on peut aussi... C'est intéressant parce qu'on peut rappeler l'étymologie de prolétaire, que souvent on dit que c'est qui ne possède que sa force de travail. En fait, étymologiquement, c'est qui ne possède que ses seuls enfants. Du coup, là, effectivement, on est vraiment sur du prolétaire, en fait, dont le seul intérêt pour l'État et pour la société est les enfants qu'il peut lui fournir.
C'est ça. Et oui, il y a vraiment cette idée, en fait, que ces enfants, on les soustrait aux familles, quoi. On va venir remplacer les parents dans l'éducation et on va envoyer ces enfants avec des hommes plus respectables. Comme ces enfants sont acquittés, il y a vraiment cette idée que, de par leur provenance sociale, ces enfants, en fait, ils sont traités comme des pré-criminels, quoi. C'est, de toute façon, ce seront des délinquants. Du coup, on va les garder, quoi. À ce moment-là, on est en pleine révolution industrielle, donc il y a aussi cette idée de classe laborieuse qui est perçue comme dangereuse, à raison, hein, sans doute. Et du coup, ces colonies, c'est une manière de gérer ces populations, de gérer ces enfants qui sont vagabonds, mendiants, voleurs. C'est prostituées aussi, surtout pour les filles. Et du coup, on va les exiler loin des villes. On va entasser tous ces indésirables pour en préserver la société bourgeoise d'alors, quoi.
Voilà. Et du coup, ils sont éloignés, mais ils sont éloignés à la campagne, ce qui n'est pas censé plaire non plus aux paysans du coin, ce genre de choses. Pour pallier cette mauvaise réputation, on va organiser par exemple des parades tous les dimanches pour rassurer la population, montrer à quel point ils sont bien ordonnés. Voilà, ce genre de choses. Au-delà de ça, il y a aussi, bien sûr, tout un système d'intérêt pour les gens qui habitent autour avec des possibilités de louer la main-d'œuvre. Quand il n'y a plus assez de travail dans la colonie, le directeur de la colonie peut venir louer les enfants aux paysans du coin pour qu'ils aillent effectuer le travail ailleurs. Dans ce cas-là, les enfants sont censés être payés. En fait, l'argent est censé leur revenir en partie. Ce qui, dans les colonies publiques, est le cas. En fait, l'argent est bloqué jusqu'à leur libération. Dans les colonies privées, souvent, quand même, plus ou moins, ils n'en voient pas trop la couleur. Voilà, ça, c'est une chose. Du coup, ça, c'est un premier intérêt pour les paysans, d'avoir cette possibilité de main-d'œuvre sous la main. Il y a aussi un fait non négligeable qui est les évasions, en fait, qui sont récompensées par des primes entre 20 et 25 francs. Ça dépend.
Oui, quand on récupère les enfants, quand on les relivre à la gendarmerie. Voilà.
Du coup, et puis pendant les évasions, en fait, il y a différents. Ou ils livrent le gamin directement, ils touchent la prime, ou ils l'utilisent quelques jours dans la ferme, et puis ils livrent aux gendarmes et ils touchent la prime. Voilà, on est sur un système plutôt rentable. Et à ce propos-là, Prévert a écrit un poème qui s'appelle La chasse à l'enfant à propos de l'évasion de Belle-Île en mer en 1934, qui est dans Belle-Île dans le Morbihan, du coup, qui est assez scandaleuse parce qu'en fait, qui est vraiment scandaleuse parce que le gamin, au départ de cette évasion, il y a une mutinerie qui a eu lieu parce qu'un enfant a mangé son fromage en entrée au lieu du dessert. Il s'est fait bastonner par les matons. il y a eu une mutinerie, les enfants se sont évadés. Et pendant l'évasion, en fait, il y a eu... Donc les gens qui habitaient autour se sont mis à la chasse à l'enfant, ainsi que les touristes.
Tout le monde s'y est mis.
Donc
La perspective réjouissante de récupérer un peu d'argent au passage.
Du coup, on peut écouter Marianne Oswald qui chante le poème de Prévert.
Bandit, voyou, voleur, schnappant. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Qu'est-ce que ces hurlements? Bandit, voyou, voleur, schnappant. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis, il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qui est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit, on tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voyou, voleur, schnappant, ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verts de rage. Bandit, voyou, voleur, schnappant, rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a